Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Radio Orient, il est 17h, voici votre rendez-vous d'information avec Wallis Glaise. Au sommaire de ce point d'actualité, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni, le Canada et le Japon dénoncent une situation de famine à Gaza, les précisions. Notre dossier du jour consacré à l'Algérie. La semaine dernière, la tension est remontée entre Paris et Alger après les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a choisi le bras de fer avec l'Algérie. Des travailleurs algériens sont même dans l'expectative en attendant le renouvellement de leur titre de séjour. Nous entendrons sur le sujet Mehdi Messaï, vice-président de la Fédération franco-algérienne. Dans notre point d'actualité, nous commençons par la crise humanitaire dans la bande de Gaza, soumise depuis maintenant 22 mois à une campagne militaire d'Israël qui atteint, je cite, des niveaux inimaginables. C'est ce qu'ont dénoncé justement l'Union européenne, la Grande-Bretagne ou encore le Canada. Aujourd'hui, une famine se produit sous nos yeux. Une action urgente est nécessaire pour stopper et inverser cette situation, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères de ces pays dans un communiqué commun publié aujourd'hui par la Grande-Bretagne. 5 civils palestiniens, dont 2 enfants, sont morts de faim et de malnutrition dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources médicales. La Jordanie accueille aujourd'hui une réunion entre Syriens et Américains sur la situation en Syrie et les moyens de soutenir la reconstruction du pays en proie à l'instabilité et aux tensions communautaires après 13 ans de guerre civile et la destitution de Bachar al-Assad. Après l'Irak, le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale iranien se rend au Liban. Une visite prévue après la déclaration récente d'un conseiller du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, affirmant que Téhéran s'oppose à la décision du gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. Beyrouth a en retour condamné une ingérence flagrante et inacceptable de l'Iran dans les affaires intérieures du Liban. En Ukraine, en amont de la réunion entre Donald Trump et Vladimir Poutine ce 15 août, aucun signe ne montre que la Russie se préparait à une situation d'après-guerre. Au contraire, c'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui ne sera pas présent en Alaska pour discuter du sort de l'Ukraine. Les dirigeants des 12 pays de l'Union européenne ont insisté aujourd'hui sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir décider de leur avenir. En France, quelques 200 migrants qui dormaient depuis quelques semaines devant le parvis de l'hôtel de ville de Paris, faute de place dans les hébergements d'urgence, ont été évacués ce matin. Leur évacuation s'est déroulée dans le calme en présence d'un important dispositif policier. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a signé un décret prolongeant de 90 jours la pause en matière de droits de douane accordée à la Chine pour poursuivre les négociations commerciales. C'est ce qu'a rapporté la chaîne de télévision américaine CNBC. Au Cap-Vert, en Afrique, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont fait au moins 8 morts et de nombreux disparus, ainsi que d'importants dégâts matériels sur l'île de São Vicente. Le gouvernement a décrété l'état de catastrophe naturelle et 2 jours de deuil national. C'est la fin de votre point d'actualité. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, notre dossier du jour consacré à l'Algérie. La semaine dernière, la tension est remontée d'un cran entre Paris et Alger après des déclarations d'Emmanuel Macron qui a choisi le bras de fer avec l'Algérie. Loïc Barrière.
Les relations entre Paris et Alger sont au plus bas depuis l'été 2024 et la reconnaissance par la France d'un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. La crise a été marquée par des expulsions de diplomates et de fonctionnaires de part et d'autre et par un gel de toutes les coopérations officielles. Mercredi dernier, dans une lettre à son premier ministre François Bayrou, Emmanuel Macron a estimé que la France devait être forte et se faire respecter. Entre autres mesures, il a demandé au gouvernement gouvernement de suspendre un accord datant de 2013, exemptant de visa de courte durée les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. En réponse, Alger a annoncé la dénonciation pure et simple de cet accord. Dans un second communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères a annoncé avoir informé le chargé d'affaires de l'ambassade de France de la décision des autorités algériennes de mettre fin à la mise à disposition à titre gracieux de biens immobiliers appartenant à l'État algérien au profit de l'ambassade de France en Algérie. L'Algérie a accusé la France d'être responsable de cette crise. Dans sa lettre à François Bayrou, le président français a exprimé son inquiétude particulière envers les Algériens dangereux sortant de prison ou placés en centre de rétention administrative et qui ne peuvent plus être expulsés faute de coopération des autorités algériennes. La semaine dernière, Emmanuel Macron a de nouveau évoqué le cas de Boualem Sansal, condamné en appel début juillet à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité nationale, et celui de Christophe Glaise, ce journaliste condamné fin juin à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. François Bayrou a lui précisé que la France n'est pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel avec Alger, avec lequel elle voudrait retrouver un jour des relations équilibrées et justes.
Et des Franco-Algériens sont stressés par ce climat tendu entre les deux pays, des étudiants algériens ou encore même des travailleurs algériens qui sont dans l'expectative attendant le renouvellement de leur titre de séjour. C'est ce qu'affirme en tout cas Mehdi Messaï, il est le vice-président de la Fédération Franco-Algérienne.
Les Franco-Algériens pâtissent de ces relations diplomatiques extrêmement tendues entre la France et l'Algérie. Comme vous le savez, je suis actuellement à Alger. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Franco-Algériens en vacances ou bien qui ont lancé des entreprise en Algérie et qui trouve cette situation extrêmement préoccupante et dommageable puisque les Franco-Algériens souhaitent, du fait de leur double appartenance et de leur double nationalité, être le pont et le lien entre la France et l'Algérie. Nous avons le sentiment que la France ne s'appuie pas énormément sur ces Franco-Algériens qui comprennent, qui ont une compréhension beaucoup plus significative de l'Algérie, de la France, et qui peuvent être une plus-value, qui peut être une forte valeur ajoutée dans les relations franco-algériennes, et le fait qu'aujourd'hui nous soyons mis de côté, notamment du côté de la France, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, le président algérien a fait une ouverture très claire vis-à-vis des franco-algériens en leur disant que l'Algérie est aussi votre pays. Mais le fait qu'aujourd'hui en France, on ne s'appuie pas sur les réseaux associatifs franco-algériens, sur les entrepreneurs franco-algériens, pour améliorer les relations entre les deux pays, on voit ici une difficulté beaucoup plus importante et un manque de compréhension aussi des enjeux qui nous lient. Et le conseil que j'aimerais donner aujourd'hui au président de la République, c'est de s'appuyer sur nous. Nous l'avons manifesté à l'égard de Jean-Noël Barrot lors d'une dernière rencontre à la mosquée de Paris lors du Ramadan. Il y avait effectivement une réunion avec des ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères, nous avons fait des appels du pied au ministre des Affaires étrangères en leur disant de s'appuyer sur nous et de compter sur nous pour travailler en étroite collaboration avec l'Algérie. Est-ce que ça a été entendu ? Je pense que ce n'est pas le cas. Et au vu de la stratégie qui a été, en tout cas, diligentée par la France cet été, nous avons le sentiment que nous sommes en train de nous éloigner de cette vision. Et nous appelons encore une fois, en tout cas la France, à travailler en étroite collaboration avec les Franco-Algériens.
Y a-t-il aussi la crainte chez des Algériens qui ont l'habitude de venir rendre visite à leur famille en France d'avoir de plus grandes difficultés à obtenir un visa ?
Bien avant cette crise diplomatique entre la France et l'Algérie, les ressortissants algériens qui souhaitent se rendre en France pour visiter la famille ou bien pour du tourisme ont toujours eu des difficultés à obtenir un visa. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Par ailleurs, ce qui est extrêmement préoccupant, ce sont aussi les étudiants algériens ou bien les ressortissants algériens établis en France qui travaillent en France et qui sont dans l'expectative, dans l'attente d'obtenir un titre de séjour qui puisse être renouvelé, puisque nous avons assisté à des situations extrêmement dommageables et complexes pour des entreprises qui se sont retrouvées à attendre le renouvellement du titre de séjour qui a souvent tardé dans certaines préfectures. Et nous savons que ces relations diplomatiques ont eu un impact sur l'obtention ou la prolongation de ces titres de séjour. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où effectivement les Algériens en France sont assez malmenés. Des familles en Algérie sont inquiètes pour leurs enfants qui sont en France. Cela crée un stress, cela crée des situations où des Algériens se retrouvent sans emploi du jour au lendemain, on l'attend du renouvellement de leur titre de séjour, ce qui cause un frein pour même des entreprises qui comptent sur ces éléments de qualité, qui sont souvent des cadres et qui sont dans l'attente effectivement d'avoir des formalités administratives qui puissent leur permettre d'avancer sereinement dans leur carrière. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Nous alertons sur le fait que derrière chaque Algérien, chaque Algérienne, chaque Franco-Algérien, chaque Français, qu'il y a des familles derrière, il y a des enjeux qui dépassent le simple jeu politique qui se joue actuellement sur la scène diplomatique et que nous appelons aujourd'hui au respect des individus et aussi à la considération de toutes ces personnes aujourd'hui qui n'ont rien demandé et qui demandent juste à travailler et à vivre sereinement avec leur famille.
Des propos recueillis par Loïc Barrière. C'est la fin de votre édition. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Merci à Raymond pour la réalisation. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.
Radio Orient, sport.
Vous êtes bien toujours sur Radio Orient, le journal des sports. Nous commençons donc ce journal des sports par cette info mercato. C'était attendu, c'est désormais officiel. Le défenseur de Bournemouth en Angleterre, Ilya Zabarny, il est ukrainien, il rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. Le champion a donc officialisé ce matin sur les réseaux sociaux le recrutement de l'Ukrainien de 22 ans. Il portera désormais le numéro 6 avec le Paris Saint-Germain. La non-convocation de Gianluigi Donnarumma dans le groupe de la Supercoupe d'Europe, ajoutée à la signature de Lucas Chevalier au PSG, annoncée samedi, a provoqué l'indignation en Italie. C'est une information très importante. La presse transalpine a dénoncé le traitement infligé au portier italien, héros de la dernière Ligue des Champions parisienne. Une semaine après avoir perdu logiquement 0 à 2 à domicile contre les Portugais de Benfica à l'occasion du troisième tour aller de la Ligue des Champions, l'OGC Nice devra effectuer un immense exploit ce soir pour renverser le club portugais chez lui, Benfica Nice, ce soir à 21h. Être courtisé cet été, l'ailier du Real Madrid, Rodrigo, suscite l'intérêt d'un nouveau club ces dernières heures. Le Brésilien de 24 ans serait dans le viseur de Manchester City. Pep Guardiola verrait d'un bon œil ce renfort alors que plusieurs ailiers comme Grealish ou encore Savinho pourraient quitter le club anglais. Toujours mercato, Lucas Hadricki a passé sa visite médicale il y a quelques jours avec l'AS Monaco. Le gardien finlandais de 35 ans va quitter le Bayer Leverkusen où il évoluait depuis 2018 pour s'engager avec le club de Ligue 1 lors du prochain lors de ce mercato. Et puis enfin du tennis, Adrian Manarino, le français, a retrouvé ses sensations au meilleur moment. Le voilà en huitième de finale du Master 1000 de Cincinnati après sa victoire sur l'américain Tommy Paul en 3-7, 5-7, 6-3, 6-4. C'était la nuit dernière. Merci beaucoup d'avoir suivi notre édition.
C'était Radio Orient Sport.